je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle « Lumière sur le monde ». Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque, tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompé pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que, tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noires réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le shérer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère surtout que vous allez nous consacrer la prochaine heure à l'analyse de l'actualité haïtienne, essayer de décortiquer ce que nous entendons jour après jour dans notre pays et essayer de nous projeter car le but, ce n'est pas analyser en vue d'analyser. Le but, c'est vraiment de tirer des leçons de l'actualité, tirer des leçons de la géopolitique internationale, de manière à reprendre le destin de notre pays en main, de manière à reprendre notre destin politique. Eh bien, cette semaine a commencé par une très mauvaise nouvelle. Vous l'avez sûrement entendu. Au début, je n'en croyais pas mes oreilles. Au début, je n'en croyais pas mes yeux. Pour vous qui n'êtes pas haïtiens et qui donc n'êtes pas aussi informés que nous, eh bien, quelle est cette nouvelle? Eh bien, dans le contexte de la construction de ce canal, n'est-ce pas, dans le département du nord-est d'Haïti, dans la région de Maribaou. Imaginez que déjà, le président dominicain a exprimé sa colère raciste, sa colère injuste, sa colère illégitime vis-à-vis d'une initiative on ne peut plus légale, vis-à-vis d'une initiative on ne peut plus, ma foi, citoyenne, vis-à-vis d'une initiative on ne peut plus naturel. Hein? Le droit à l'eau potable, le droit à la nourriture sont des droits qui sont reconnus par toutes les chartes internationales, par le droit international. On voit là que la rivière Massacre, qui est une rivière qui parcourt à la fois le territoire dominicain et le territoire haïtien, eh bien, après que la République dominicaine elle-même a fait pas moins de 11 prises sur ce canal, pour la première fois donc, la population haïtienne a décidé de faire une prise, de construire un canal pour irriguer ses terres dans la région de Maribaou. On a vu tout ce scandale provoqué par le Nazi Nader, le président dominicain, comment il a envoyé son armée qui a violé notre territoire d'ailleurs,
comment il a fermé, n'est-ce pas, sa frontière avec nous, comment il avait interdit jusque-là toute importation de produits dominicains vers Haïti, ce qui en soi est un acte inintelligent puisque la République dominicaine vend à Haïti pour pas moins de 1,4 milliard de dollars de produits américains par année, tandis qu'en contrepartie, nous n'exportons vers la République dominicaine que pour 10 millions de marchandises. Eh bien, il avait tout fermé. Il avait décidé de ne plus émettre de visa aux ressortissants haïtiens, de ne plus permettre aux étudiants haïtiens d'aller étudier là-bas. Il avait fermé la frontière en s'imaginant à tort que le peuple haïtien allait quémander sa faveur, que le peuple haïtien allait le supplier pour qu'il, n'est-ce pas, procède à la réouverture des frontières. Or, il n'en est rien. Plutôt que de nous humilier, au contraire, ce qu'il a fait nous a servi de fouet. Ce qu'il a fait a justement fouetté notre patriotisme, ce qu'il a fait a fouetté notre fierté, et il a réussi, c'est le cas de le dire, à provoquer l'unanimité parmi les Haïtiens, tous les Haïtiens donc, et ceux du dedans et ceux du dehors, sont d'accord pour que le canal se poursuive, et c'est ce qui se fait. Et voyant que les Haïtiens ont tourné le dos à ces produits, voyant que les Haïtiens ont tourné le dos aux articles dominicains, eh bien, l'État dominicain semble procéder à autre chose. Et là, c'est important de le dire. C'est important de le dire. Imaginez déjà que dans ce chaos où l'État haïtien ne fait rien, si jamais l'État haïtien existe, dans ce chaos où le gouvernement haïtien ne fait rien, eh bien, nous avons appris la semaine dernière que des pochettes de sang contaminées au virus du sida ont été importées vers Haïti. Imaginez les amis. Imaginez des zones, imaginez des régions densément peuplées qui seraient contaminées par des pochettes de sang en provenance de la République dominicaine. Bon, d'accord. La chaîne de responsabilité n'est pas encore établie, il n'y a pas d'enquête. Vous pouvez comprendre pourquoi il n'y en a pas eu d'enquête et qu'il n'y en aura pas une, parce que en général, c'est le gouvernement haïtien qui devrait se tenir du côté de la population haïtienne qui est la victime dans cette affaire pour diligenter une enquête, pour porter une plainte contre soit la compagnie privée qui a tenté d'importer du sang contaminé, enfin d'exporter du sang contaminé vers Haïti, ou identifier la responsabilité de l'État dominicain lui-même. Mais on sait que rien de tout cela ne sera fait puisque celui qu'on appelle le premier ministre d'Haïti n'est pas le premier ministre du peuple haïtien. Ces guignols qu'on appelle les ministres du gouvernement haïtien ne sont pas des ministres qui travaillent pour le bien-être de la population haïtienne. Ce ne sont pas des gens qui vont prendre position pour Haïti. Si bien que les journaux en ont parlé, les civils ont commenté la chose, les médias sociaux se sont enflammés. Dans un premier temps, je ne pouvais pas en croire mes yeux. Dans un premier temps, je ne pouvais pas en croire mes oreilles. Est-ce qu'au XXIe siècle, en un temps où on peut, n'est-ce pas, tout savoir et faire tout savoir rapidement, est-ce qu'une compagnie privée, est-ce qu'un organisme privé, ou pire, est-ce qu'un organisme d'État ou un organisme, n'est-ce pas, para-étatique, tenterait de commettre un génocide, de commettre un crime contre l'humanité sur la population haïtienne en exportant vers Haïti des pochettes de sang contaminées au virus de sida? Oui, vous avez le droit d'être étonné, vous avez le droit d'être choqué. C'est effectivement ce qui s'est produit dans ces derniers jours, n'est-ce pas, sur la même frontière. Et puisque je ne crois pas au hasard, je ne crois pas à la coïncidence, je ne crois pas, donc que ce soit un simple fait du hasard, qu'au moment même où le Nazi Nader a tenté de casser la volonté des Haïtiens de se prendre en main, je ne crois pas qu'au moment même où la population haïtienne a tenté, n'est-ce pas, de prendre sa destinée en main, en construisant elle-même, cette population, un canal pour irriguer ses terres, je ne crois pas que cette importation de sang contaminé vers Haïti soit le fruit d'une simple coïncidence. Évidemment, à défaut d'avoir une enquête officielle, à défaut de diligenter, n'est-ce pas, des gens qui vont, de dépêcher des gens qui vont identifier la chaîne de responsabilité, qui va dire, mais voici qui a fait cela, voici quelle a été son intention, voici quelle devrait être la responsabilité de l'État dominicain dans cette affaire, mais voici quelle devrait être la responsabilité de l'État haïtien dans toute cette affaire, eh bien, nous sommes condamnés à tirer nous-mêmes aux conclusions. Or, les conclusions ne sont pas si difficiles que cela à tirer, les amis. Dans des pays de droit, des pochettes de sang ne s'achètent pas comme dans une boutique. C'est pas comme si j'entrais dans un magasin pour m'acheter, n'est-ce pas, un sac de bonbons ou bien pour m'acheter, je ne sais pas moi, de la farine. Eh bien, le sang, c'est la vie. Et puisque, n'est-ce pas, le sang constitue, si vous voulez, un produit sanitaire, eh bien, et l'État dominicain avait la responsabilité de veiller à ce que le sang qui soit destiné vers l'exportation, n'est-ce pas, en Haïti, ou et l'État haïtien devrait veiller à ce que tout ce qui entre dans ce pays soit conforme aux normes minimales de la santé. Voilà que, puisque en Haïti, il n'y a plus de contrôle, puisque l'État haïtien ne remplit pas ses responsabilités minimales, l'État haïtien n'assume pas ses responsabilités régaliennes, n'est-ce pas, l'une de ses responsabilités, c'est de protéger sa population, c'est de protéger son territoire, c'est de veiller, n'est-ce pas, à ce que cette population reste en santé, on a tenté d'empoisonner. On a tenté de commettre un génocide sur la population haïtienne de la région du Nord-Est en exportant depuis la République dominicaine du sang contaminé au sida. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en trois langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en trois langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous, de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Je ne connais pas votre âge, mais moi je suis encore marqué au fer rouge par ces manifestations anti-haïtiennes auxquelles on assistait ici même au Canada, ici même au Québec, n'est-ce pas, à la fin des années 80, lorsque le sida était encore appelé 4H, un H étant ici pour les Haïtiens. Vous aviez des patients québécois, vous aviez des patients canadiens qui refusaient, n'est-ce pas, de les services professionnels des médecins haïtiens pour ne pas attraper le sida. Vous aviez des gens qui refusaient de monter à bord d'un taxi piloté par un chauffeur haïtien pour justement éviter d'attraper le sida. Je me souviens de toutes ces manifestations anti-haïtiennes, encore à New York, n'est-ce pas, à Miami, où les Haïtiens étaient perçus et les médias colportaient la chose. Et une certaine science médicale semblait le dire, les Haïtiens étaient donc porteurs de sida. Voilà que près de 40 ans plus tard, ce traumatisme me revient parce que des pochettes de sang contaminées au virus de sida ont été exportées vers Haïti. Et n'était la vigilance, je crois, de ce maire de Wanamet, on ne peut imaginer les dommages que ces pochettes de sang contaminées auraient produit sur la population civile. Vous pensez que tout cela est arrivé au hasard? À un moment où la République dominicaine vient de perdre la face, à un moment où le nazi Nader a perdu la face, lui qui avait fermé la frontière, lui qui avait interdit toute exportation de produits dominicains vers Haïti et qui a dû justement ravaler sa langue pour rouvrir les frontières, alors que l'État haïtien décide de garder, n'est-ce pas, le côté haïtien fermé. Lui qui décide désormais d'autoriser l'exportation des produits dominicains vers Haïti, vous pensez que tout ceci arrive au hasard? La tentative de contamination de la population civile haïtienne de la région du Nord-Est par des pochettes de sang contaminées au virus de sida. Lorsque j'ai lu cette nouvelle, lorsque je l'ai entendue commentée par des journalistes, des analystes des médias sociaux, je me suis posé la question, mais bon Dieu, quand enfin aurons-nous des défenseurs? Quand est-ce que nous allons avoir un gouvernement qui se donne pour mission première de défendre, n'est-ce pas, sa population? Vous vous souvenez que la MINUSTAH nous avait apporté le choléra. Choléra, cette épidémie qui avait disparu de nos frontières depuis plus de 100 ans. Et lorsque ces forces, n'est-ce pas, des armées de l'ONU nous ont apporté, n'est-ce pas, le choléra, et que la population civile commençait à mourir en grand nombre, on parle là, n'est-ce pas, de milliers de morts, le gouvernement de Martelly et le ministre des Affaires étrangères de Martelly d'alors, plutôt que de prendre position pour la population haïtienne, pour réclamer réparation pour ce dommage, ce choléra qui nous a été importé par les forces de l'ONU, quelle ne fut ma tristesse de voir le gouvernement de Michel Martelly, avec son ministre des Affaires étrangères d'alors, prendre position, tenez-vous bien, non pas pour la population haïtienne, mais prendre position pour l'ONU. Le ministre des Affaires étrangères de Michel Martelly est allé dire au Parlement haïtien qui cherchait à comprendre, n'est-ce pas, quelles étaient les responsabilités des forces onusiennes dans la résurgence du choléra en Haïti. Ce ministre des Affaires étrangères a eu le culot de dire que les Nations Unies n'y étaient pour rien. Or, ironiquement, des chercheurs français, des chercheurs étrangers ont fait la démonstration que cette souche-là du choléra pouvait remonter à la présence des forces onusiennes chez nous, si bien que, là encore, le peuple haïtien était livré à lui-même sans défenseur, sans personne pour prendre position pour lui. En voilà que, une dizaine d'années plus tard, c'est des pochettes de sang contaminées qui ont traversé notre frontière depuis la République dominicaine et qui visaient, cela n'a absolument aucune autre option, on ne peut tirer aucune autre conclusion, des pochettes de sang contaminées au sida qui visaient à éliminer la population haïtienne. Avez-vous entendu une note de protestation officielle du Premier ministre haïtien? Rien. Avez-vous lu ou entendu une note de protestation officielle de la part du ministre de la Santé publique en Haïti? Rien. Avez-vous entendu le ministre des Affaires étrangères d'Haïti convoquer l'ambassadeur de la République dominicaine à Port-au-Prince pour lui demander des explications? Je ne suis pas en train de dire que l'importation de ces pochettes de sang contaminées au sida en Haïti, cette importation-là, je ne suis pas en train de dire qu'elle est directement liée à une action de l'État dominicain, sauf qu'il y a des explications à donner. Il y a des questions à se poser. Si on avait un véritable gouvernement, on poserait des questions à la République dominicaine, on tenterait même une action en justice pour que cette compagnie-là, qui a tenté de faire, enfin d'importer du sang contaminé chez nous, ou l'État dominicain, n'est-ce pas, lui-même donnerait des explications. Mais comme d'habitude, les civils sont surpris, nous les analystes, nous déchirons nos chemises, n'est-ce pas, sur la place publique. Mais quant à Ariel et sa bande de salauds, c'est comme si de rien n'était, c'est business as usual. De toute manière, ils ne sont pas là pour la population haïtienne. Ils sont là pour respecter et pour appliquer l'agenda des étrangers. Cette semaine, c'était, vous me direz, la semaine de mes chocs, la semaine de mes surprises. On avait entendu par le passé, enfin, dans les dernières semaines, Trudeau critiquer Ariel Henry pour sa, si vous voulez, pour sa nonchalance, pour son refus de prendre quelques décisions que ce soit afin de sécuriser sa population. Mais si vous suivez comme moi l'actualité, lors de ce sommet de la CARICOM qui s'est déroulé au Canada, avez-vous vu l'accolade que se sont donné le premier ministre très hypocrite du Canada, Justin Trudeau, et le premier ministre très cynique d'Haïti, Ariel Henry? Au fait, ce sont deux amis qui se sont rencontrés parce qu'ils, n'est-ce pas, sont là pour exécuter le même agenda, l'agenda de faire disparaître la population haïtienne d'Haïti, la faire disparaître cette population de toutes les manières. Le Canada choisit l'émigration, on va en parler, faire sortir le plus d'Haïtiens possible d'Haïti, ce qui conduira au même résultat, vider Haïti de sa population pour faire main basse sur ses ressources. La République dominicaine choisit le génocide par l'importation en Haïti ou l'exportation depuis la République dominicaine de pochettes de sang contaminées. Vous comprenez que pour nous les Haïtiens, changer de gouvernement, ce n'est plus une tactique. Changer de gouvernement, ce n'est plus quelque chose d'accessoire. Il nous faut avoir un gouvernement, car nous n'avons pas de gens qui nous dirigent pour notre bien. Au fait, nous sommes dirigés par des tyrans. Et le droit international, la coutume internationale, le droit naturel permet à tout peuple, à toute population, à tout citoyen qui est tyrannisé de se défendre contre les tyrans. Dites-moi, le ministre de la Santé publique doit être sénile. Il est malade quelque part, on ne l'a pas vu. Hein. Je ne sais pas pour vous si vous avez entendu parler de ce ministre de la Santé publique. Il me semble qu'il était très malade il y a quelques mois. Et imaginez, il est allé se faire soigner en terre étrangère. Et depuis ce temps, on ne l'a pas remplacé. Mais ça sert à quoi de le remplacer de toute manière? Donc, il continue à être payé comme ministre de la Santé publique, payé pour quoi faire? Pour rien. Le ministre de la Sécurité publique, dont le mandat devrait être, n'est-ce pas, de sécuriser la population haïtienne, donc la ministre de la Sécurité publique, en l'occurrence, qui est en même temps ministre de la Justice, les mauvaises langues disent avec, n'est-ce pas, justesse, ministre de l'Injustice. Le ministre de la Sécurité publique, ministre de la Culture, ministre, n'est-ce pas, de la Justice. Mais qu'est-ce qu'on ne lui offrirait pas comme ministère, puisque de toute manière, elle ne fout rien? Est-ce que le ministre, est-ce que la ministre de la Sécurité publique, Emily Prophète, a lancé une enquête quelconque pour savoir, mais qu'est-ce qui n'a pas été respecté au niveau de la frontière? Où est le ministre du Commerce qui doit normalement veiller au respect des règles, au respect des normes, en ce qui a trait à ce qu'on importe, en ce qui a trait à ce qu'on achète d'ailleurs, en ce qui a trait à ce qui se vend au pays? Imaginez les amis, c'est gros ça, c'est très gros ça. Des pochettes de sang, des dizaines de pochettes de sang contaminées au sida qui ont traversé la frontière dominicaine vers Haïti. Vous savez quoi? C'est encore une fois la théorie de Pasqua. La chose nous a choqués pendant quelques jours, mais très rapidement, on va attirer nos regards vers autre chose. Très rapidement, on va créer une autre nouvelle, on va créer une autre actualité pour éviter de fixer les responsabilités dans cette affaire. Imaginez s'il s'agissait d'un autre pays. S'il s'agissait d'un autre peuple, s'il s'agissait d'un pays avec une autre couleur, mais les journalistes étrangers en parleraient. S'il s'agissait d'un autre peuple, on pousserait la question un peu plus loin pour savoir, mais qu'est-ce qui s'est véritablement passé? Quand je vous ai dit que le peuple haïtien est juste dans sa façon de nommer Abinader, Nazinader, mais ça, les amis, c'est un acte nazi. Que d'exporter vers un autre pays, que d'exporter vers la république voisine des pochettes de sang contaminé au sida. Et alors, vous savez ce que ça aurait donné? Une fois de plus, on aurait assisté à une résurgence du taux de ceux qui sont affectés par le sida en Haïti, et partout, les journaux recommenceraient à faire du sida la maladie des Haïtiens. Heureusement, il y a des esprits qui veillent sur ce peuple. Hein? Je ne peux que m'en résoudre à dire cela, puisque mes dirigeants ne veillent pas sur moi, la ministre de la Justice ne fait pas son travail, le ministre des Affaires étrangères ne fait pas son travail, le premier ministre ne fait pas son travail. Eh bien, si on a pu attraper à temps ces pochettes de sang contaminées, je ne peux remercier que les dieux tutélaires de la nation qui ont veillé une fois de plus sur nous. Imaginez le carnage. Imaginez le massacre. Imaginez, c'est le cas de le dire, le génocide que cela aurait provoqué lorsque des familles entières seraient décimées. Lorsque des villages entiers seraient décimés, lorsque la région entière serait décimée. Et qu'est-ce que sera fait? C'est que les gens seraient si faibles. Les amis, ce n'est pas quelque chose de simple. Hein? Voyez toutes les implications de la chose. Imaginez si les dieux tutélaires de cette nation ne veillaient pas véritablement sur nous. Imaginez que ces pochettes de sang soient effectivement entrées en Haïti, que les gens aient reçu ce sang contaminé et qu'ils aient commencé à se contaminer les uns les autres. Ça aurait provoqué une telle méfiance que tout ce momentum, toute cette énergie positive que nous voyons dans la construction du canal, tout ceci serait disparu, le temps de le dire, parce que chacun aurait eu peur de se rendre dans cette zone-là, la zone du canal, pour éviter d'être contaminé au sida. Alors vous pensez que ça, c'est seulement le fruit du hasard? D'ailleurs, même s'il s'agissait d'une entreprise privée qui a tenté de faire la chose, il est hautement probable que l'État dominicain soit derrière cela, car quand il y a commission d'un crime, l'une des premières questions à se poser, mais c'est à qui profiterait ce crime? Nous en avons parlé. Le Nazinader, le président de la République dominicaine, a signé des accords avec des compagnies minières canadiennes pour exploiter des mines d'or qui se trouvent justement sur le tracé de ce canal. Oh, voilà que les Haïtiens reprennent leur destin en main. Le Nazinader a tout fait pour nous décourager. Il a tout fait pour arrêter cela. Eh bien, il a choisi en fin de compte une autre tactique nazie. Empoisonner, assassiner, tuer toute une population de manière à arrêter abruptement la construction du canal. Voyez, qui aurait dû faire le travail que nous faisons en ce moment? Des enquêteurs haïtiens. Qui aurait dû faire ce travail que nous sommes en train de faire maintenant? Le ministère de la Justice, qui aurait dû, n'est-ce pas, embaucher des avocats pour poser les questions et poursuivre, s'il le faut, ultimement, l'État dominicain, lorsqu'on aurait fixé sa responsabilité véritable dans cette affaire. Mais une fois de plus, le Nazinader ne présentera pas d'excuses au peuple haïtien, parce que pour lui, ce ne sont pas des humains. Le gouvernement haïtien ne fera rien parce que ce gouvernement-là se contente d'exécuter les plans de destruction, les plans génocidaires de la communauté des nations malveillantes sur la population haïtienne. Et puisque cette tentative a échoué, ceux qui ont conçu ce plan macabre vont revenir sur la table à dessin, ils vont concevoir d'autres plans. Et nous devons être vigilants parce que la construction de ce canal, qui est légal, qui est légitime, qui est naturel, ne plaît pas au président dominicain. La construction de ce canal contrarie les plans de la compagnie minière canadienne Unigold. Et ne soyons pas assez naïfs pour dire nous sommes au 21e siècle. On ne tentera pas de nous éliminer comme on a fait pour les autochtones au 16e siècle lorsque les Espagnols ont envahi l'île d'Haïti. Ne soyons pas assez naïfs pour dire que, ah mais non, nous sommes au 21e siècle, n'est-ce pas? Nos ennemis ne feront pas comme les Américains qui ont tué 5000 paysans selon leur propre note de manière indiscriminée. Ça veut dire ils ont tiré sur le tas et ont éliminé 5000 paysans. Ne soyons pas assez naïfs. Enfin, pour ignorer que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre parce que nous avons attaqué la République dominicaine. Nous sommes en guerre pas parce que nous avons fait quelque mal que ce soit aux Américains, aux Français ou aux Canadiens. Nous sommes en guerre de par ce que nous représentons. Que représentons-nous ? Haïti représente la terre de la liberté. Haïti représente cette terre qui a remis en question l'ordre mondial, qui voulait que les Blancs soient au sommet de l'échelle des vivants et que les Noirs se retrouvent, n'est-ce pas, au plus bas échelon. Et nous avons dit non. Et de quelle manière avons-nous dit non? En battant la plus puissante armée européenne, l'armée française. Alors que jusque-là, aucune armée européenne n'avait jamais été battue par une armée non européenne. Nous avons dit non. Nous avons prouvé que les Noirs étaient capables d'autodétermination, qu'ils étaient capables de créer un État dans cette Amérique d'esclaves, dans cette Amérique de racistes, dans cette Amérique de suprémacistes blancs. Les blancs malveillants ont la mémoire coriace, ils ont la mémoire dure. Il n'y a rien qu'ils ne soient prêts à faire pour nous éliminer. Ils vont tenter le génocide. Cette importation de pochettes de sang contaminé en est l'illustration. Et ils vont continuer à pratiquer des politiques d'émigration sauvage pour forcer les Haïtiens à laisser Haïti vers n'importe où, de manière à faire main basse sur nos ressources. On a vu cette tentative de génocide à partir de la République dominicaine. Maintenant, voyons comment on est en train de détruire Haïti en forçant l'émigration des Haïtiens. C'est donc le deuxième aspect de l'émission d'aujourd'hui. Comment l'émigration est un outil de néocolonisation. Comment l'émigration est un outil dont justement les pays malveillants se servent pour vider un État de ses ressources humaines, pour déstabiliser un pays, pour déstructurer l'État. Nous allons en parler après la pause que voici.
Quand on est initié, ce qui est convoqué, c'est à la fois l'aspect symbolique, mais aussi l'invisible. Donc c'est difficile pour moi de vous raconter. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que les initiations dans le vaudou, elles ont toujours un lien avec le fait de se perfectionner soi-même et de travailler avec les éléments de la nature visibles et invisibles.
Quand on parle de vaudou et qu'on vous pose la question, quelle est la définition que vous donnez du vaudou ?
Alors, ma définition, qui est assez personnelle, elle consiste à dire que, déjà, ça n'est, pour moi, ça n'est pas une religion. Parce que j'ai cette phrase qui me vient en tête, hein, qui m'a beaucoup marquée, qui était de dire « Le vaudou, je n'y crois pas, mais ça existe. » Croire, c'est la relation verticale entre soi et son Dieu, quel qu'il soit. C'est la religion, la croyance, la foi. Et ça existe, c'est cette relation au monde, cette relation en système, à la nature, aux ancêtres et à l'invisible. Donc pour moi, la définition du vaudou, finalement, c'est une vision du monde intégrée.
Pour vous aider à vous défaire de tous les mensonges qu'on vous a débités au sujet du vaudou, je vous propose une trilogie fondamentale. Vaudou, je me souviens. Et si les lois n'étaient pas des diables? Et enfin, Vaudou 101, une spiritualité moderne sans sorcellerie. Ces trois livres sont disponibles sur mon site web www.jeanfissemi.com ou sur amazon.ca. Une trilogie à lire et à avoir dans sa bibliothèque personnelle ou familiale. Avant la pause, on s'était promis de regarder un deuxième outil de déstabilisation de notre pays. Et ce n'est pas seulement un outil qu'on utilise chez nous en Haïti, c'est un outil qu'on utilise dans tous les pays noirs. On vient de voir une tentative claire de génocide. Hein? On ne peut surestimer ce qui s'est passé là. Et souvent, comme intellectuel, on tend à banaliser pour dire, mais non, on ne peut pas dire que c'est l'État dominicain qui est derrière ça. Voyons donc, les amis, voyons donc. Même quand il s'agissait d'une entreprise privée qui a fait cela, eh bien, l'État dominicain a des responsabilités dans ce qu'il permet comme produit exportable. Bien sûr que l'État haïtien a ses responsabilités aussi. L'État haïtien doit veiller sur ce qui rentre sur le territoire haïtien de manière à protéger sa population. C'est l'une de ses responsabilités premières. Mais s'il vous plaît, de grâce, évitez-moi l'insulte à la blessure que nous avons subie en disant « Mais non, l'État dominicain n'est pas derrière ça. Mais non, le nazi Nader n'est pas derrière ça. » Vous aurez toujours quelques intellectuels haïtiens qui, pour avoir l'air évolué, hein, c'est comme ça qu'on les appelait, ces intellectuels-là, pendant la colonisation. Les intellectuels qui pensaient comme le maître, des intellectuels qui pensaient comme le colonisateur, on les appelait justement des évolués. Donc, pour avoir l'air d'évoluer, ils vont dire, mais non, vous savez, fils aimé parle de génocide, mais non. Voyons donc, les amis. Alors, deuxième outil d'élimination de ce peuple, deuxième outil de vider, pour vider ce territoire de sa population, c'est justement l'émigration. Mon livre « Être noir, une fabrication occidentale » est sorti, voilà, 3 ans maintenant, là. Mais dans ce livre-là, je vous montrais déjà comment l'émigration est utilisée comme arme aux mains des pays anciennement colonisateurs pour continuer à vider les pays anciennement colonisés de leur population de manière à faire main basse sur les ressources des 10 pays. Si vous voulez avoir une triste illustration des effets de la malgouvernance en Haïti. Si vous voulez avoir une triste illustration des effets de la néocolonisation en Haïti, rendez-vous à l'aéroport de Port-au-Prince et vous serez servi. Vous serez, j'allais dire, édifié, mais il n'y a pas d'édification là-dedans. Vous serez tout simplement convaincu du fait que en Haïti, il y a une, si vous voulez, une tentative, une entreprise constante, perpétuelle pour vider Haïti de sa population. Les amis, imaginez que pendant les dernières semaines, les derniers mois, suivez-moi bien, c'est pas moins de 7 vols par jour qui amenaient des Haïtiens, en moyenne 150 Haïtiens par vol, tous les jours, depuis Port-au-Prince vers le Nicaragua.
si vous prenez le temps de lire sur le niveau de vie du Nicaragua, si vous prenez le temps de lire, si vous voulez, sur le taux de chômage, sur le PIB du Nicaragua, vous dites, bon Dieu. Ceux qui nous ont dirigés, accouplés aux blancs malveillants, entendons les gouvernements américains, français et canadiens, eh bien, ceux-là se sont associés pour transformer Haïti en un véritable enfer, en sorte que la jeunesse haïtienne se dit « Il n'y a aucun endroit qui puisse être pire que ce que je vis là en Haïti, peu importe l'endroit, je prends l'avion pour me rendre au Partouville, on va l'appeler ainsi. » Nicaragua. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, si on m'avait dit qu'un jour, les Haïtiens fuiraient Haïti à destination du Nicaragua, je dirais, ben non, mais c'est une sale blague, ça. Et vous voyez, cette émigration soudaine vers le Nicaragua, émigration massive, 7 vols depuis Port-au-Prince tous les jours vers le Nicaragua, vous notez que c'est une suite, les amis. Hein? Il faut éviter de mettre toute son attention sur l'arbre de manière à oublier la forêt. Vous vous souvenez du premier qui a fait ça? Dans les années 2000, c'était le Brésil qui a annoncé qu'il était prêt à accueillir autant d'Haïtiens, qu'il était même prêt, l'ambassadeur du Brésil en Haïti est allé jusqu'à dire qu'il est prêt à accueillir tous les Haïtiens vivant en Haïti au Brésil. Pour quelle raison? Parce que le Brésil avait besoin de main-d'œuvre servile et corvéable à souhait pour construire ses infrastructures sportives, puisque le Brésil allait être le pays hôte du mondial. On connaît la suite. Après le mondial, eh bien, on n'avait plus besoin de ces Haïtiens-là et on les a vus se faire massacrer par des Brésiliens. Il faut dire les vraies choses. Apparemment, les femmes brésiliennes ont une affection particulière pour les Haïtiens et les hommes haïtiens ne voient pas, les hommes brésiliens, dis-je, ne voient pas la chose d'un bon œil. Et beaucoup de nos frères haïtiens se sont fait massacrer par des Brésiliens. Et rapidement, on les a vus. Ceux-là même qui étaient soi-disant accueillis par le gouvernement brésilien, on les a vus reprendre leurs sacs, leurs bébés, reprendre, n'est-ce pas, leurs clics et leurs claques, refaire la route à pied cette fois-ci. Beaucoup d'entre eux ont traversé jusqu'à 6 pays pour se rendre à la frontière mexico-américaine. Et quel accueil les États-Unis leur ont-ils réservé? On les a chassés à la corde comme s'ils étaient des animaux. Ça ne fait même pas 2 ans, les amis. Souvenez-vous-en. Après le Brésil, c'est le Chili qui a fait ça. Le Chili a dit, écoutez, moi je suis prêt à accueillir autant d'Haïtiens qu'il y en a en Haïti. Le Chili. Bon Dieu, on s'entend que le Chili n'est pas un pays économiquement avancé. On s'entend que le niveau de vie d'un Chilien est peut-être à peine plus élevé qu'un autre pays pauvre. Et pourtant, à l'appel des autorités chiliennes, les Haïtiens, sans réfléchir, ont commencé à prendre l'avion et beaucoup d'entre eux se retrouvent au Chili sans papier, sans statut permanent. Ils se retrouvent donc avec un statut précaire, subissant là encore le racisme des Chiliens. Mais il faut remonter plus haut, les amis. C'est mon privilège en tant qu'historien de le dire. L'Haïtien, jusque-là, était très attaché à sa terre. Jusqu'en 1919, l'Haïtien était très attaché à sa terre. Et les Américains y ont goûté. Lorsqu'ils ont tenté par tous les moyens de faire fuir les Haïtiens, ces derniers étaient viscéralement attachés à leur terre. Cet attachement viscéral, nous le tenons de nos ancêtres. C'est une terre que nous avons construite nous-mêmes. C'est une terre, n'est-ce pas, qui s'est abreuvée de notre sang. C'est une terre pour la libération de laquelle nous nous sommes battus et jamais n'étions-nous prêts à la laisser. Et devant cet attachement viscéral à sa terre, les Américains ont forcé le paysan à aller couper de la canne à sucre en République dominicaine. Ils étaient les premiers à le faire. Il ne faut pas oublier comment les choses ont commencé. Il faut à chaque fois refaire la genèse de l'émigration haïtienne. Ce sont les Américains qui ont forcé nos paysans à vendre leurs terres. Déjà, comme je l'ai dit, ils ont changé notre constitution pour permettre l'achat de nos terres par des étrangers. Ils ont déstructuré l'économie haïtienne pour forcer les paysans à aller couper de la canne à sucre en République dominicaine, puis à Cuba. Et à la faveur de la crise du sucre, ils ont écrit dans leur rapport au département d'État, il ne faut pas que les Haïtiens reviennent en Haïti, il faut désormais qu'ils servent de main-d'œuvre servile aux pays de la région. Et c'est alors qu'on a commencé à retrouver les Haïtiens à Saint-Martin, en Guadeloupe, à la Martinique, à Curaçao, partout, et plus tard à Miami. Vous notez une chose? Les Haïtiens prennent jusqu'à 7 avions par jour pour se rendre au Nicaragua. Le Nicaragua qui suit l'exemple du Brésil. Le Nicaragua qui suit le précédent du Chili. Mais au même moment, depuis un peu plus d'un an maintenant, Biden, celui-là qui avait fermé ses frontières à l'entrée des Haïtiens, celui-là qui avait donné quelque chose comme 7 ou 8 millions, n'est-ce pas, au gouvernement d'Ariel Henry pour faciliter la déportation d'Haïtiens vers le Cap-Haïtien, vers l'aéroport de Port-au-Prince, depuis un peu plus d'un an maintenant, ce même Biden se découvre de la philanthropie. Il se surprend à être philanthrope et il facilite ainsi l'émigration de milliers d'Haïtiens par mois. Vous pensez que tout cela, les amis, c'est le fruit du hasard? Un an et demi plus tard, c'est le Canada qui annonce un programme semblable à celui des États-Unis. Le Canada va désormais permettre à un ressortissant haïtien vivant au Canada, n'est-ce pas, de parrainer ses frères et ses sœurs, peu importe leur âge, de parrainer une conjointe, de parrainer n'importe quel enfant, de parrainer des parents, ce qui était interdit depuis maintenant une dizaine d'années. Vous pensez que tout cela, c'est le fruit du hasard? Les amis, l'émission ne s'appelle pas « Lumière sur le monde » pour rien. C'est une émission qui cherche à vous éclairer. L'émigration est un outil de néocolonisation. Pour quelle raison? Quand on veut faire main basse sur les ressources d'un pays, on vide ce pays-là de sa population, car ce sont des cerveaux qui font du développement. Le Japon ne serait pas un pays développé s'il devait compter uniquement sur ses ressources naturelles. Le Japon est un pays développé parce qu'il a pu compter sur ses ressources humaines. Or, en Haïti, nous avons non seulement des ressources naturelles, mais des ressources humaines. Le Canada, les États-Unis, la France, il faut toujours les dénoncer dimanche après dimanche. Puisqu'ils sont en période de virage énergétique. Ils cherchent des ressources non fossiles. Ils cherchent des ressources, n'est-ce pas, plus, si vous voulez, plus écologiques. Et tout à coup, ils s'aperçoivent qu'il y a cet Haïti-là qui est un grenier de ressources. Mais puisque c'est un pays qui, par leur faute aussi, est mal dirigé, honte aussi à nos dirigeants, donc la population haïtienne accepte ce mensonge-là, à savoir qu'elle vit sur un territoire pauvre, alors le Canada, les États-Unis, le Chili, le Nicaragua, et mettez-en, offrent l'aumône aux Haïtiens en leur permettant de quitter ce beau pays pour aller vivre ailleurs. Et pendant ce temps, des étrangers vont acheter nos terres. Je ne suis pas en train, encore une fois, de faire quelques reproches que ce soit à ceux qui quittent. Mais je suis seulement en train de vous dire que derrière cette émigration massive, derrière cette émigration vers Partouville, il y a un plan macabre de vider Haïti de sa population, comme les Américains l'avaient décidé en 1919. Pour faire main basse sur Haïti, vous allez voir, vous allez voir. Au moment où on quitte en grand nombre, au moment où on quitte tous les jours vers Partouville, des compagnies minières canadiennes vont s'intéresser à Haïti. Ils vont, encore une fois, ces pays-là, le Canada, les États-Unis et la France, ils vont nous faire des élections bidons et ils vont placer à la tête du pays des hommes facilement manipulables qui vont justement leur signer des accords, mon œil, pour permettre l'exploitation de nos ressources sans nous. Alors prenons les blancs malveillants à leur propre jeu. Oui, quittez. Mais pour nous qui sommes déjà installés, achetons des terres dans notre pays. Ne leur facilitons pas les tâches. Oui, il y en a qui doivent quitter parce qu'Haïti est devenu un enfer malheureusement. Mais pour nous qui sommes déjà installés en terre étrangère, qui avons une certaine économie, c'est le temps d'acheter des terres. Il ne faut pas donner raison à ce que Trump avait dit. Trump avait dit qu'éventuellement, Haïti va devenir, si vous voulez, un territoire qui va appartenir à des compagnies étrangères, car des conglomérats, des compagnies étrangères, des entreprises minières vont essayer d'acheter là où il y a des ressources et finalement, Haïti n'existera que de nom, parce que d'une part, on aura vidé le pays de sa population, mais parce que d'autre part, ce sont des étrangers qui vont acheter nos terres.
Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le Monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez. Où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le Monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcasts, Spotify, Podcast Index, Google Podcasts, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le Monde est en podcast.
Faisons comme nos ancêtres nous avaient prévenu que qu'aucun étranger ne mette le pied dans ce pays à titre de propriétaire, puisque les Américains, les scélérats, ont modifié, ont amendé notre constitution dans ce sens-là, en attendant qu'il y ait un gouvernement nationaliste qui va justement nationaliser tous les biens appartenant à des étrangers, nous qui sommes en diaspora, buy a land, achetons. Comme l'avait dit Marcus Garvey, n'est-ce pas, des lopins de terre, achetons, n'est-ce pas, des hectares de terre chez nous, dans nos régions d'origine, pour éviter que ce pays-là ne soit acheté en petits morceaux par des compagnies étrangères. Vous voyez le fil de l'importation de pochettes de sang contaminées depuis la République dominicaine vers Haïti, jusqu'à l'émigration massive, l'émigration forcée, l'émigration mise en place par les blancs malveillants, vous notez que c'est le même dessein, c'est la même finalité, vider Haïti de sa population d'origine. Mais posez-vous la question, depuis quand s'intéressait-on à un pays pauvre? Depuis quand s'intéressait-on à une population pauvre? On s'intéresse aux Ukrainiens aux yeux bleus. Mais depuis quand s'intéressait-on à la population haïtienne au point de lui permettre d'entrer aux États-Unis presque sans papier, d'entrer au Canada dans n'importe quelle condition, ces mêmes pays qui fermaient leurs frontières? Jusqu'en décembre dernier, les amis, le Canada a fermé ses frontières pour empêcher que des Haïtiens qui passent par les États-Unis, ne viennent demander l'asile ici. Ils ont fermé leurs frontières. Et puis tout à coup, quelques mois plus tard, ils disent, écoutez, nous sommes devenus des philanthropes. Nous allons permettre aux ressortissants haïtiens vivant ici de faire entrer n'importe qui. Il y a un plan macabre, un complot contre ce pays N'ayons pas peur du mot complotisme, on s'en fout. Il y a des comploteurs. Comme l'avait dit Malcolm X, si on ne fait pas attention, eh bien les médias vont faire en sorte que nous aimions l'oppresseur et que nous ayons honte, nous les opprimés. Non, il faut combattre cela. Il y a un complot contre ce pays. Forcer l'immigration, créer une instabilité, créer de l'insécurité, comme on l'a vu dimanche dernier, pour faire en sorte que cette population s'en aille, qu'elle serve, n'est-ce pas, de main-d'œuvre corvéable et taillable à merci, et que les compagnies canadiennes, américaines, comme on l'a vu sous Michel Martelly, entrent et fassent main basse sur nos ressources. Non, soyons vigilants. Soyons lucides. Oui, quittons si vous n'avez plus le choix. Mais pour nous qui sommes déjà ici, achetons des terres dans ce pays pour éviter que ce pays ne soit acheté par morceaux par des compagnies étrangères. Enfin, dans tout ce que je vous dis, il y a toujours un peu d'espoir. Consacrons la dernière partie de l'émission à ces lueurs d'espoir que je perçois. À tout à l'heure.
Vous vous demandez où trouver mes livres simples sur mon site, prioritairement, www.jeanfils-aimé.com. Vous avez accès à tout ce que j'ai écrit. Où que vous vous trouviez dans le monde, nous livrons partout où c'est possible. Vous pouvez aussi avoir accès à mes livres par amazon.ca. C'est un excellent cadeau à se faire ou à faire aux autres. Servez-vous-en.
Je vous avais dit que la dernière partie de l'émission serait consacrée à ce qui m'a donné de l'espoir. Vous savez, lorsque le Conseil de sécurité des Nations Unies a annoncé il y a quelques semaines en grande pompe qu'il donne son aval à l'invasion du territoire haïtien par une force internationale. Mais déjà, je vous disais, mais de quel droit ? Vous avez un conseil de sécurité qui est constitué de 5 membres permanents, dont j'ai rien à foutre, et qui s'entoure de 10 autres membres qui, eux, sont élus pour un certain temps, en sorte que vous avez donc une structure de 15 membres qui décide pour un peuple qui ne lui a rien demandé. Le peuple haïtien n'a rien demandé. Le peuple haïtien dit, nous n'avons pas choisi Ariel. Vous nous l'avez imposé, reprenez-le, envoyez-le en enfer si vous voulez, à la morgue, on s'en fout, mais on ne vous demande rien. Bon. Et là, je vous avais dit que c'est illégal, c'est insolite. Et heureusement, la population kényane commence à penser comme moi, commence à penser comme vous et moi. Eh bien, les parlementaires kényans pense comme vous et moi que cette évasion du territoire haïtien par la police kényane est un acte inconstitutionnel du point de vue du droit haïtien, mais inconstitutionnel du point de vue de la constitution kényane. Bon Dieu. Et je voudrais rendre hommage à au moins 3 parlementaires kényans qui ont demandé à la Cour suprême d'apposer un veto à cette politique du gouvernement kényan qui permettrait l'invasion du territoire haïtien par la police kényane. Donc je voudrais leur rendre hommage et je vous dirai pourquoi. Je voudrais rendre hommage à Anthony Oluwok, je voudrais rendre hommage à Jonet Mohamed et je voulais aussi et surtout rendre hommage au parlementaire Nelson Cock, qui est docteur en droit, mais surtout constitutionnaliste. Il a travaillé à la rédaction de cette constitution. Il a demandé à la Cour suprême de bloquer le temps d'étudier la question de fond, qui consiste à savoir, est-ce que l'envoi de forces policières en Haïti est constitutionnel ou non. Mais voilà, je veux leur rendre hommage, mais ce pourquoi je veux rendre un hommage particulier au docteur Nelson Cox, c'est pour sa connaissance de l'histoire d'Haïti. J'ai écouté une entrevue de cet homme dans laquelle il explique pourquoi il est contre l'invasion du territoire haïtien par, la, n'est-ce pas, la police kényane, mais bon Dieu, j'étais encore plus fier d'être haïtien. Il rappelait aux Haïtiens comment ils ont fait l'histoire. Il rappelait aux Haïtiens comment ils ont battu la plus grande armée du monde. Il rappelle aux Haïtiens comment ils ont créé un état de liberté formé de Noirs, tandis qu'on était entouré de nations blanches, n'est-ce pas, qui esclavagisaient justement d'autres Noirs. Et dans cette entrevue, il nous a dit de ne pas compter sur les autres pour résoudre nos problèmes. De ne pas compter sur l'arrivée de troupes étrangères pour résoudre nos propres problèmes de sécurité et que c'était à nous de le faire. Nous avons prouvé par notre histoire que nous pouvions faire de plus grandes choses encore. C'est à nous de nous prendre en main. Je voudrais rendre hommage à cet homme-là pour son courage. Il a défié les Américains. On sait que ce sont les Américains qui, au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, ont poussé cet agenda d'invasion de notre territoire. Ce monsieur-là, Nelson Koch, a dit aux Américains leurs quatre vérités. Il leur a dit, c'est vous qui avez créé le gâchis en Haïti. En imposant aux Haïtiens des gouvernements qu'ils n'ont pas choisis. C'est vous qui avez créé l'instabilité. Il a même dit que les armes qui tuent les Haïtiens viennent en majorité de la Floride. Mais bravo, Dr. Koch. Et là, il dit, écoutez, les Haïtiens sont nos frères, mais nous ne voulons pas être utilisés par les Américains pour aller envahir le territoire d'un pays frère, le territoire d'un pays ami. Et il a dit que c'est la tactique même des Américains, c'est la tactique des pays malveillants de créer de l'instabilité partout, de jouer, n'est-ce pas, aux pyromanes, de foutre le feu partout et de tenter de se faire passer pour des pyromanes. Et le gars nous a fait un beau cours d'histoire, non pas un cours d'histoire seulement d'histoire lointaine, mais un cours d'histoire immédiate. Et il nous a lancé cet appel au patriotisme. Il a dit aux Haïtiens qu'ils étaient leurs frères, mais que c'était à eux de prendre leur destin en main, mais que c'était à eux de résoudre leurs problèmes. Bon Dieu, quel thé de gingembre cela n'a été pour moi. Quel café, justement, cela n'a-t-il été pour moi d'écouter l'entrevue de cet homme et de me dire, mais c'est vrai, c'est vrai. Ça, nous le savions, mais que notre nous le dise, c'est doublement vrai. Ce sont les Américains qui ont merdé chez nous, qui ont laissé entrer des armes à profusion chez nous, avec la complicité de la République dominicaine. Et pour se cacher derrière une police de Noirs, donc là, on ne peut plus parler de racisme. Il faut dire, ah, mais ce sont des Noirs qui vont aider des Noirs. Mais question de logique, les amis. La police haïtienne est peut-être évaluée à 11 000 policiers. Bon, avec le programme Biden, on en a facilement perdu 4 000, mais disons au bas mot, il reste 7 000 policiers haïtiens. 7 000 policiers haïtiens, c'est 7 fois plus que 1000. On a 7 000 policiers haïtiens qui n'arrivent pas à résoudre notre problème d'insécurité, suivez mon regard. Et 1000 policiers kényans seraient en mesure de résoudre ce que 7000 n'ont pas résolu. Où est la logique dedans? Et dans la résolution des Nations Unies, il est écrit noir sur blanc que ces policiers-là ne vont pas entrer pour combattre les gangs, ces policiers-là ne vont pas entrer en conflit avec ceux qui détiennent des armes, ils vont être là pour protéger des endroits stratégiques comme les aéroports, les ports et surtout pour permettre la tenue d'élections dans ce pays. Donc, en fait, on veut envoyer des Kenyans, des Noirs, faire accepter aux Haïtiens une autre élection à la suite de laquelle on va nous foutre un autre Michel Martelly. C'est ça le plan des États-Unis, c'est ça le plan du Canada, c'est ça le plan de la France. Ils ne nous ont jamais aimés, ils ne nous aimeront jamais, et on ne leur demande pas non plus de nous aimer, on leur demande tout simplement de nous foutre la paix. Et à un moment donné, à force de demander de vous foutre la paix, si on ne vous fout pas la paix, vous devez imposer votre paix, renverser ceux-là qu'ils nous ont mis à la tête de ce pays, renverser Ariel et ces salopards de Guignol. Les amis, et cette tentative de génocide, l'exportation de pochettes de sang contaminées au sida depuis la République dominicaine et l'émigration massive forcée des Haïtiens ces derniers jours participent de la même tactique. Vider le territoire haïtien de sa population de manière à faire main basse sur nos ressources en cette période de virage énergétique. Qu'on se le tienne pour dit. Soyons vigilants. Ne laissons aucun étranger posséder cette terre de Dessalines. Vive Haïti, vive le peuple haïtien. J'espère vous avoir été utile. J'espère surtout que l'émission d'aujourd'hui va vous ouvrir les yeux et fouettera votre patriotisme de manière à renverser ce que le Canada, les États-Unis et la France nous imposent pour reprendre notre destin politique en main. Merci de votre attention. Bonne semaine. Gardons le moral, car tant qu'on va le moral, tout va. Au revoir. Bonne semaine.